Radio Okapi.
Le journal présenté par Noéla Luzitu Kabambi.
Occupation depuis jeudi soir de deux localités du territoire de Lubero au nord Kivu par le M23 soutenu par le Rwanda après des affrontements avec les FRDC. Les habitants se sont déplacés massivement vers d'autres villages plus sécurisés. Formation sur la gestion et la remontée des alertes et informations liées aux crises humanitaires, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA, l'a organisé à l'intention des acteurs humanitaires et des membres des organisations de la société civile de Bandunduville. C'est pour qu'ils connaissent mieux qui sont les acteurs impliqués dans les actions humanitaires à qui donner ces alertes. Notre invité s'appelle Augustin Mulongoi Masandi. Il est le chef de station de l'Institut national pour l'étude et la recherche agronomique INERA, Salubieza, au Maniema. Bonjour à tous. Deux localités dans le territoire de Lubero, au nord Kivu, sont occupées depuis jeudi soir par les rebelles du M23 après de violents combats qui ont opposé toute la journée les FRDC à cette rébellion soutenue par le Rwanda. Une situation qui a provoqué un déplacement massif de la population vers des villages jugés plus sécurisés. André Kitenge nous fait le point.
Les localités de Meriki et Kimaka, situées à une dizaine de kilomètres de la commune rurale de Kanyabayonga Centre, sont actuellement vidées de leurs habitants. Ces derniers ont fui leur milieu après l'occupation de ces deux localités par les rebelles du M23 depuis jeudi soir, rapportent plusieurs sources de la société civile. Les mêmes sources indiquent que ces rebelles ont attaqué vers 3h du matin les positions des FRDC au niveau du pont Lai Lai. C'est après des combats à l'arme lourde que les M23 ont franchi ce pont en occupant le village de Meriki situé à 5 kilomètres de Kimaka Centre. Les rebelles auraient même tenu un meeting ce vendredi matin à Meriki. Une situation qui a provoqué un déplacement massif de la population de Meriki et Kimaka vers le village de Luofu, la commune rurale de Kirumba dans le territoire de Lubero et même vers Buleusa, un village du territoire de Walikale. Selon l'administrateur du territoire de Lubero, les combats se poursuivent encore aux alentours de Meriki et Kimaka en cette fin de matinée. Il indique cependant que les rebelles du M23 ont largué plusieurs bombes ce matin qui sont tombés à Kanyabayonga et Kirumba. Un bilan provisoire fait état de 5 morts, dont un enfant et des blessés. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Pendant ce temps, une accalmie précaire règne ce vendredi matin dans la région de Oufamandou Premier, précisément à Remeka, après d'intenses affrontements hier dans cette localité qui est passée sous occupation des rebelles. Des sources dans la région affirment que 2 civils ont été tués et 7 autres blessés pendant ces affrontements qui ont surpris la population tôt le matin. Certains habitants ont pris la direction de Walikale, notamment vers Ombo et Waloa, d'autres vers Ziralo dans le sud Kivu. Les habitants qui n'ont pas réussi à fuir sont contraints de rester avec les rebelles, déplorent des sources sur place. Cependant, les sorts des élèves finalistes qui n'ont pas pu terminer leur dernier examen de la session de l'examen d'État à cause des affrontements n'est pas encore connu. En Ituri, la vie reprend son cours dans plusieurs centres commerciaux dans le secteur de Walindutati et Baema Nord dans le territoire de Djougou. Plusieurs marchés dont Dramani, Masumbuko et d'autres sont désormais opérationnels, les marchés que les communautés locales jadis en conflit ne fréquentaient plus à cause de l'insécurité. Constat fait ce vendredi par l'administrateur du territoire à l'issue d'une mission d'évaluation des accords de paix signés le mois dernier dans cette entité. Un comité de pilotage du système d'alerte précoce est mis en place pour pérenniser ses acquis pour une paix durable dans la région. Le point avec Ezekiel Mouzalia.
Ces accords ont été signés au mois de mai dernier entre les notables, chefs coutumiers et leaders locaux du secteur de Walindutati et Baema Nord sous la facilitation du gouvernement provincial et la MONUSCO. Ils mettent un accent particulier notamment sur la libre circulation des personnes et leurs biens, la cessation des violences et le vivre ensemble, les gages du développement. Au cours d'une mission d'évaluation et des suivis de 7 feuilles de route, de nombreuses avancées ont été signalées. C'est entre autres la reprise du trafic sur les tronçons Drodro, Largou, Masumbuko, Paranganza, Lita, Katoto, jusqu'à Bounia. La rouverture de cette voie de communication a facilité la reprise des activités dans les marchés Dramani, Masumbuko, ainsi que dans d'autres centres de négoces fermés à cause de l'insécurité. L'administrateur du territoire de Djougou encourage cette prise de conscience des leaders communautaires qui permet aux nombreux habitants de rentrer dans leur milieu. Le colonel Ruffin Mapela.
Nous avons travaillé sur les points qui ont été réussis et nous avons trouvé une solution. Nous avions essayé de renforcer aussi les mentalités de ces deux communautés pour que puisse s'approprier ces dialogues qui portent des fruits.
Un comité mixte d'harmonisation et de pilotage du système d'alerte précoce avec à la tête l'abbé curé de la paroisse des Drodro est mis en place pour pérenniser les acquis de paix entre les deux communautés. Bounia, Ezekiel Muzalia, Radio Okapi.
À Kinshasa, parlons diplomatie. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie souhaite l'affermissement des relations diplomatiques entre la RDC et tous les représentants des corps diplomatiques et consulaires. Thérèse Kayikwamba l'a dit hier à Kinshasa à l'occasion de la cérémonie de présentation des nouvelles autorités du ministère des tutelles aux différents ambassadeurs responsables des missions diplomatiques et organisations internationales. Elle a aussi épinglé la précarité sécuritaire dans l'est de la RDC. Une précarité attribuée au Rwanda. On écoute Thérèse Kayikwamba dans cet extrait choisi par Alain Hung.
Je dois à cette occasion souligner que la précarité sécuritaire à l'est du Congo et la campagne du Rwanda impunie restent la priorité pour notre gouvernement. La précarité sécuritaire à l'est du Congo reste le défi majeur pour la stabilité dans la région et une interpellation pour la conscience du monde au regard des pertes en vie humaine. Plus tôt cette année, notre président a souligné des circonstances graves dans cette région portant atteinte à la souveraineté nationale et à la sécurité. Ce n'est pas le fait simplement de quelconque insurrection locale, mais plutôt et surtout le résultat d'influences extérieures, notamment les actions du gouvernement rwandais qui ont contribué à cette crise. D'ailleurs, le rapport récent du groupe d'experts des Nations Unies réaffirme l'implication du Rwanda à travers son agression contre la République démocratique du Congo, où le Rwanda est responsable des violations graves et massives du droit international général, du droit international humanitaire et des droits humains.
Le chef de l'État de la RDC appelle l'Église catholique à l'accompagner tout en restant au milieu du village. Déclaration hier de Mgr Donatien Cholet, secrétaire général de la Commission épiscopale nationale du Congo, CENCO. C'était à la sortie de l'audience que le président de la République a accordé à une délégation des évêques catholiques. Les prélats catholiques sont aussi allés présenter à Félix Tshisekedi la nouvelle équipe de la CENCO. On écoute Mgr Donatien Cholet dans cet extrait proposé par Alain Hung.
Les évêques ont jugé bon de venir échanger avec le chef de l'État sur la marche du pays. Vous savez que la préoccupation majeure des évêques, c'est le bien-être de la population congolaise, sur ce qui doit être fait en priorité au regard de ce que vit le Congolais aujourd'hui, sur les domaines où ils invitent le chef de l'État à donner davantage de son impulsion pour que ça aille mieux. Et je vous assure que c'était de toute beauté, c'était en toute responsabilité qu'ils ont échangé sur ces différents sujets. C'était vraiment dans l'harmonie. Le président de la République a démontré qu'il est conscient, il connaît son pays, il connaît les problèmes, il a reconnu l'objectivité de ce que les évêques lui ont dit. Il a promis son engagement, il demande à l'Église de continuer à l'accompagner en étant, comme il a toujours été, au milieu du village.
Au Kwilu, les acteurs humanitaires et les membres des organisations de la société civile de Bandundu Ville sont outillés sur la gestion et la remontée des alertes et informations liées aux crises humanitaires ainsi qu'aux catastrophes naturelles. L'atelier de formation de 2 jours s'est clôturé hier à Bandundu Ville même. Activité organisée par OCHA, Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, en partenariat avec le ministère des Actions humanitaires du Kwilu. Jérémy Bikiele, directeur de cabinet du dit ministère, explique l'objectif de cette formation au micro de Irène Mbomaluzolo.
L'objectif de cette formation est de renforcer les compétences et les connaissances des acteurs impliqués dans les actions humanitaires, notamment le ministère de l'Action humanitaire et les organisations de la société civile, pour qu'elles soient en mesure de pouvoir rapporter convenablement les faits d'alerte et des informations liées à la crise humanitaire. et aussi aux catastrophes. Il y a dans cette crise intercommunautaire de Maïndombé, dont la province de Bandundu est aussi victime par l'afflux de personnes déplacées, et nous avons constaté qu'il y a eu un problème au niveau de la documentation et des rapportages de la situation. Il n'y a pas eu assez ou des interventions humanitaires à la hauteur de besoins qui ont été suffisamment identifiés. C'est ainsi que les participants seront outillés à rapporter dans la plateforme des OCHA qui faciliteront la remontée des informations auprès des décideurs pour qu'il y ait des interventions ciblées pour répondre aux besoins des personnes en situation de vulnérabilité.
Au Sud Kivu, la province est désormais dotée d'un nouveau gouvernement rendu public ce vendredi sur les ondes de la station provinciale de la RTNC. Ce gouvernement est composé de 10 ministres et 3 membres du secrétariat exécutif. Les détails dans cet élément de Jean Kassami.
Contrairement au gouvernement sortant qui comptait 16 ministères, le gouverneur Jean-Jacques Purusi procède aujourd'hui à la réduction par souci des performances, annonce-t-on dans son entourage. 6 ministères qui fonctionnaient d'une manière autonome dans les gouvernements antérieurs sont fusionnés dans le souci d'éviter une équipe éléphantesque et par conséquent budgétivore. Aucun ministre du gouvernement sortant n'est repris. Une seule femme occupe le ministère des Mines, Énergie et Ressources hydrauliques. Bitidjula Martin, ministre national honoraire, se retrouve au ministère provincial des Transports et chargé des relations avec l'Assemblée provinciale. Kahashafoka Mike, doublement élu aux députations provinciales et nationales lors des scrutins de décembre 2023, est nommé ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. 2 autres ministres émanent aussi de l'Assemblée provinciale. Tous les autres sont de nouvelles figures peu connues dans la sphère politique de la province. Jean Kassami, Bukavu, Radio Okapi.
Dans la province de la Tchopo, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF a remis ce vendredi au ministère provincial de la Santé un lot de matériel roulant et informatique destiné aux zones de santé de cette entité. Ce matériel devrait faciliter notamment la transmission des données sanitaires des zones de santé à la division provinciale pour toute fin utile. La cérémonie officielle s'est déroulée à la division provinciale de la Santé en présence des agents et cadres du ministère ainsi que de la division provinciale de la Santé de l'UNICEF. Un reportage de Jacques Moukonkolé.
Ce lot de matériel roulant et informatique est constitué de 3 kits hors bord, moteurs et pirogues, 16 kits de VSAT et tous les accessoires avec un abonnement de 3 mois. À cela, il faut ajouter 4 motos tout-terrain, le tout pour une valeur de plus de 58 000 $ américains. Madame Aline Baganda, chef de bureau intérimaire de l'UNICEF Kisangani, explique le bien fondé de cette donation.
La donation de l'UNICEF, constituée de tous ces matériels que nous voyons devant nous, sont des matériels roulants et matériel informatique. Nous espérons que ces matériels pourront appuyer la santé de la vaccination des routines et nous amener à réduire le nombre des enfants insuffisamment vaccinés, mais également à faciliter les rapportages des données de vaccination au sein de notre province de la Tchopo.
La ministre provinciale de la Santé, Bernadette Foura, et le chef de division provinciale de la Santé, Dr. Bienvenu Ikomo, saluent cette énième intervention du partenaire du gouvernement. Il recommande aux bénéficiaires une utilisation responsable de ce matériel. Pour sa part, le représentant des médecins chefs des zones de santé, le docteur Dora Lifeta de la zone de santé d'Opala, les en rassure.
Nous allons utiliser ces nouvelles dotations en bon père de famille pour améliorer les indicateurs dans nos zones de santé en surveillance et en récupération des enfants.
Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Au Kasaï-Oriental, 2 personnes ont été blessées par balle hier soir par un policier dans la cité de Katanda, territoire du même nom. En représailles, les habitants en colère sont allés détruire le bureau du parquet et de la commune rurale de Katanda. Plus de détails avec Esther Ndalafina.
Les témoins affirment que ces personnes étaient à la maison lorsqu'ils ont été surprises par des balles réelles tirées par un policier. Une balle a atteint dans l'œil d'une femme d'une 60 ans et une autre a touché la main droite d'une jeune fille de près de 19 ans. La même source précise que les faits se sont produits lorsqu'une famille enterrait le corps rapatrié de Mujimai vers Katanda d'une femme tuée il y a quelques semaines dans les conflits intercommunautaires entre les Benakapuya, Benamwembia et Benashimba. Pris de colère, la population a immédiatement détruit les bureaux du parquet et de la commune rurale de Katanda. Contacté, l'administrateur des territoires intérimaires déplore le fait de rapatrier le corps de la défunte sans informer afin de lui permettre de prendre des dispositions. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Toutes nos tentatives pour joindre les autorités policières de Katanda se sont avérées vaines.
Actualité internationale.
Après 14 mois de conflit, la situation ne cesse d'empirer au Soudan. Alors que le risque de famine s'intensifie, les Nations Unies tirent la sonnette d'alarme. Dans un récent rapport, le Programme alimentaire mondial PAM annonce que 755 000 personnes seront menacées de famine dans les mois à venir. Pendant ce temps, le risque de malnutrition continue d'augmenter chez les enfants. Le PAM indique également que 8,5 millions de personnes sont confrontées à des pénuries alimentaires extrêmes après 14 mois de conflit dans le pays.
L'invité.
Notre invité s'appelle Augustin Moulongoy Massandi. Il est chef de station de l'Institut national pour l'étude et la recherche agronomique INERA à Loubiéza. Il nous parle de l'état de lieu de cette station qui se trouve à 187 km de Kindu dans le secteur des Beya en territoire de Pangui. Augustin Moulongoy Massandi s'entretient avec Florence Kizalunga.
Monsieur Augustin Moulongoy, bonjour.
Bonjour madame la journaliste.
Est-ce qu'on peut savoir à quel état se trouve la station INERA Saloubezia aujourd'hui?
En réalité, pour le moment, la station se porte à merveille parce que nous avions pu d'abord commencer les activités à partir de l'année 2022 et jusqu'au jour d'aujourd'hui, les activités vont bon train au niveau de la station INERA Saloubezia.
Qu'est-ce que vous faites exactement comme les travaux vont bon train dans votre station?
Au sein de notre station, nous sommes en train de faire l'activité de production semencière parce que nous avions pu signer une convention avec le projet PATCA 6P et dans ce cadre de ce projet-là, nous avons pu produire une quantité de 5 tonnes de semences de base de riz ainsi que de maïs. Et maintenant, pour le moment, nous sommes en partenariat avec le projet PADRI, lequel projet nous a fait doter le matériel aératoire à présent. Et ce matériel aératoire vont devoir nous aider dans les travaux de production de semences de base de riz ainsi que de maïs, comme je le disais aussi dans l'autre projet PADCA 6P.
Qu'est-ce qui est contenu dans ces protocoles opérationnels que vous avez signés avec PADRI?
Dans ce protocole, nous nous sommes convenus avec PADRI que le partenaire pourra mettre à la disposition de l'INERA Saloubezia des moyens financiers et les moyens matériels. Au-delà de ça, il y aura le renforcement des capacités techniques et opérationnelles des chercheurs de l'INERA. À part ça, PADRI va pouvoir acheter le matériel aératoire, ce qui est déjà fait, et les semences de pré-base nécessaires pour la production de la semence de base au sein de notre station. Le partenaire aura à former les techniciens et les chercheurs de l'INERA en maintenance variétale, ainsi qu'à la mise en place de la semence de pré-base et la production de semences de base de riz, manioc, ainsi que le maïs.
Qu'est-ce qui est étrange ou bien des particuliers dans ces protocoles étant donné que vous êtes toujours en train de produire?
Madame la journaliste, ce qui est étrange dans ce protocole, c'est que le PADRI a exprimé vraiment la bonne volonté à travers notre station, la volonté de pouvoir nous doter le matériel aératoire qui vient quand même nous aider pour booster les activités de production semencière au sein de notre station. Donc, je dois vous avouer ici, madame, que nous étions en train de connaître des grands défis au sein de notre station. Alors, ces défis sont en train d'être peut-être élagué par le projet PADRI, parce que normalement, on n'avait pas le matériel aératoire, mais à travers le projet PADRI, nous avions réceptionné un lot important de matériel aératoire. Au-delà de ça, on n'arrivait pas à avoir facilement la semence de pré-base, mais à travers le protocole que nous avons signé avec le programme PADRI, nous espérons avoir la quantité de semences de pré-base qui peut quand même nous aider à pouvoir produire aussi la semence de base de certaines spéculations choisies par le programme PADRI.
Peut-on alors dire qu'avec cette dotation des PADRI, que désormais la province d'Imanima ne va plus dépendre des autres provinces en ce qui concerne les semences de base?
Je peux vous avouer ici, madame, que la province d'Imanima pourra maintenant compter à la station INERA Saloubezia, étant donné que nous avons le matériel, nous aurons à recevoir aussi le semence de pré-base. C'est pour vous rassurer que la province d'Imanima sera totalement servie à ce qui concerne la semence de base et nous allons mettre la semence de base produite par la station INERA Saloubezia au profit des agrimultiplicateurs de la province du Maniema, pourquoi pas les petits producteurs, bref, tous les opérateurs semenciers de la province.
Monsieur Augustin, à part la dotation des padris, vous avez encore d'autres besoins?
En réalité, les besoins sont toujours exprimés au niveau de la station. Nous avons aussi le besoin, par exemple, des dotations des équipements agricoles. Je vois les outils qui nous servent toujours, par exemple, pour la conservation de la semence. Là, je dirais, par exemple, la chambre froide. Au-delà de la chambre froide, nous avons aussi besoin d'avoir les motoculteurs.
La station INERA Salvesia, c'est une ancienne station dans la province du Maniema. Est-ce que vos bâtiments sont encore en bon état?
Le bâtiment construit au sein de la station INERA Salubesia date de 1952. C'est pour dire que tous les bâtiments qui se trouvent au sein de cette station, à présent, ils sont dans un état de vétusté. Que le partenaire puisse venir nous aider pour la réhabilitation de tous ces bâtiments. Au-delà de ça, nous avons aussi la difficulté, c'est que tous les chercheurs qui sont au niveau de la station n'arrivent pas à être bien logés simplement parce qu'il n'y a pas de bâtiments qui peuvent vraiment recevoir ce jeune chercheur qui sont d'ailleurs en train de travailler au sein de la station.
Monsieur Augustin Moulongoi, merci.
C'est moi qui vous remercie, madame la journaliste.
Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Un journal présenté par Noëlla Luzitu Kabambi dans une mise en onde de Mimi Kindou. Après ce journal, place à Kanish Mukongo pour le journal des sports sur Radio Okapi.